102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. De Radio Canu, on vous le disait, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble pour une heure d'actualité sociale, politique et bien d'autres encore. Salut Rémi.
Salut David, bonsoir à tous.
Plein de choses dans la besace ce soir encore, plein de petites informations. Et on commence traditionnellement par plusieurs rendez-vous, plusieurs annonces qu'on a envie de vous faire partager. Tout d'abord, ça nous concerne directement puisque ça se passe à la librairie La Plume Noire, la librairie autogérée par les militantes et les militants de l'UCL. C'est ce samedi 17 juin, à partir de 15h, l'Union Communiste Libertaire organise un après-midi pour célébrer le mois des fiertés. Vous savez que samedi dernier, c'était la LGBTQ+ Pride qui a défilé dans les rues de Lyon. Il y a d'autres initiatives qui sont menées par les différentes minorités d'identité, d'orientation sexuelle durant ce mois de juin. Et ben dans le cadre des luttes contre toutes les discriminations d'identité ou d'orientation sexuelle, dans le cadre des luttes pour le droit à l'égalité et le libre choix de toutes les identités, les orientations sexuelles, et ben l'UCL s'inscrit en solidarité avec cette mobilisation-là. Et pour donc célébrer ce mois des fiertés, on vous invite ce samedi après-midi à partir de 15h, avec un programme fort riche, puisque tout d'abord de 15h à 17h, il y aura une table de presse qui sera tenue par la maison d'édition YBY. Alors je ne sais pas si Rémi, tu peux m'éclairer sur l'anagramme de cette maison d'édition, ou si on découvrira samedi à La Plume Noire, pourquoi YBY.
Alors non, l'anagramme, non.
Alors on découvrira tous ensemble samedi pour ceux qui se rendront à La Plume Noire. En tout cas, c'est une maison d'édition qui publie de la littérature inclusive et qui valorise la diversité et particulièrement les identités queer. Et c'est pour ça qu'ils sont invités à tenir cette table de presse ce samedi à la librairie La Plume Noire de 15h à 17h où on aura de nombreux ouvrages de cette maison d'édition. Et puis ensuite, à 17h, de 17 à 19h, il y aura la projection d'un film suivi ensuite d'un temps convivial. Mais à 17h, il y aura la projection du film Pride, qui est un superbe film britannique sorti il y a déjà quelques années, qui nous ramène dans l'Angleterre des années 81, sous Margaret Thatcher, plus précisément l'été 1984, alors que Margaret Thatcher est au pouvoir et que le syndicat national des mineurs est en pleine grève qui va être un véritable bras de fer avec le pouvoir libéral de Margaret Thatcher. On sait que malheureusement, ce mouvement finira mal pour les mineurs après plus d'un an de grève, et que Thatcher en profitera pour interdire les grèves de solidarité et mettre à bas une grande partie du mouvement syndical combatif britannique. Mais en tout cas, ce film, il se déroule durant cette période et sur fond de grève des mineurs, mais il nous raconte comment, lors de leur marche à Londres, la marche des mineurs à Londres, un groupe d'activistes gays et lesbiens a décidé en fait de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais c'est pas aussi simple que ça. Derrière la bonne volonté, et l'Union nationale des mineurs semble quelque part embarrassée de par la culture familiariste, ouvriériste et parfois viriliste et patriarcale de la culture des mineurs, d'accepter cette aide aux familles des mineurs. Pour autant, le groupe d'activistes ne va pas se décourager, et après avoir repéré un village minier au fin fond du Pays de Galles, il décide tout simplement d'embarquer au bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en main propre. Et c'est ainsi que débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que pourtant tout oppose, mais qui s'unissent finalement pour défendre une même cause dans la lutte ensemble contre les discriminations, les oppressions et l'exploitation. Et il est quand même à signaler que ce film, qui est un film de fiction, il met en scène des personnages, notamment un des activistes de la cause LGBT qui a réellement existé et qui est malheureusement décédé du sida dans la seconde partie des années 80. Et il raconte une histoire vraie, d'une véritable communauté d'activistes LGBT qui sont allés porter leur solidarité aux mineurs en grève durant cette année 1984, année charnière de la lutte des mineurs en Angleterre. Voilà, si vous n'avez jamais vu ce film, bah c'est l'occasion, parce que c'est un très beau film, un film dans la veine des grands films sociaux britanniques tels que par exemple Ken Loach sait le faire ou Proche des Virtuoses, mais qui a su croiser deux luttes, deux solidarités, celle de la classe ouvrière et celle de la communauté LGBT britannique. Un film à voir, et c'est pour ça qu'on vous invite ce samedi à partir de 17h, à venir le voir à la librairie La Plume Noire. Et puis, il y aura un mouvement convivial qui suivra pour finir cette journée dédiée à la solidarité pour célébrer le mois des fiertés. Comme d'habitude, c'est une activité à prix libre. Et c'est toujours au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, à deux pas de la place Colbert, sur le trajet du bus numéro 6, pour ceux qui veulent monter en bus. Voilà, c'est le programme de ce samedi à la librairie La Plume Noire.
Alors, je viens de vérifier quand même, YBY, c'est pour You Be Yourself, donc sois toi-même.
Voilà, bah, tout à fait. On a donc la réponse, et l'anagramme nous semble tout à fait approprié à cette maison d'édition.
Et je voulais profiter aussi de cet événement pour vous annoncer que la librairie La Plume Noire a enfin un site internet. Ça faisait des années, je crois, qu'on n'en avait plus. L'adresse, c'est librairieplumenoire.org, tout attaché. Alors, le site vient tout juste de sortir, il n'est pas encore très fourni, mais vous pourrez y trouver à l'avenir notre sélection de livres, des coups de cœur, des nouveautés. Et ainsi que les annonces des événements comme celui-ci ce samedi.
Et puis d'autres rendez-vous de lutte, je crois, Rémi, à nous annoncer aujourd'hui.
Oui, demain, c'est le collectif Soutien Migrants 69 qui appelle à manifester à 11h30 en soutien aux mineurs isolés. Ça partira de la métropole et ça ira jusqu'à la préfecture. L'appel à manifester rappelle d'ailleurs quelques chiffres effarants. Alors que le nombre de mineurs non accompagnés arrivant à Lyon est stable depuis 2018, aujourd'hui encore, environ 200 d'entre eux et elles se retrouvent sans droit, sans aucune ressource, ni prise en charge institutionnelle dans une métropole d'1,4 million de personnes. Sous la pression de l'État, via la préfecture, la métropole de Lyon, qui se revendique pourtant accueillante et qui dispose d'un budget de 4 milliards d'euros, ne prend pas en charge ces jeunes qui, selon les conventions internationales européennes et la loi française, doivent être protégés. Le collectif de soutien aux migrants demande l'inscription notamment dans la loi du respect de la présomption de minorité pour les personnes se déclarant mineurs isolés, comme le préconise par ailleurs la défenseuse des droits, la Cour européenne des droits de l'homme et le comité des droits de l'enfant de l'ONU. Il demande aussi, qu'en attendant que cette clarification légale soit faite, que la métropole de Lyon et la préfecture mobilisent les moyens nécessaires pour que ce principe soit respecté et qu'aucun mineur ne se retrouve abandonné à la rue dans le territoire métropolitain. Autre annonce, c'est ce week-end, on vous en a déjà parlé de ce rassemblement, c'est les 16, 17 et 18 juin dans la vallée de la Maurienne, un rassemblement contre le chantier du Lyon-Turin, à l'appel du collectif Notave côté italien et des Soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne notamment du côté français. C'est un projet ferroviaire titanesque qui implique le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins, qui coûte 30 milliards d'euros et qui a déjà eu pour effet de drainer des sources par les machines, machines qui ont tari ou fait perdre du débit à ces sources, qui a aussi percé des nappes phréatiques et qui a pour projet d'artificialiser 1500 hectares de terres agricoles. Donc le programme de ce week-end, ça commencera vendredi à 15h avec l'accueil sur le site. Samedi matin, des prises de parole, des briefs et un départ pour la manifestation internationale avec un dress code bien connu maintenant, le bleu de travail et des casseroles. Et ensuite le soir, repas et concerts. Puis le dimanche, dernier jour, des tables rondes et des interventions avec notamment un auteur, des scientifiques et un historien des techniques pour parler justement de ce projet et de son impact sur l'environnement. Puis l'après-midi, une assemblée des massifs en lutte et des comités locaux des soulèvements de la Terre. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site des soulèvements de la Terre, ainsi qu'un lien de covoiturage pour vous rendre sur place, et puis aussi le lien vers le canal Telegram qui annoncera le lieu exact de rendez-vous. Voilà. Voilà pour les annonces. On enchaîne justement puisqu'on parle
de lutte pour l'environnement. Peut-être un petit point en effet sur la répression qui frappe les militants écologistes radicaux actuellement.
Oui, ça s'est passé justement le 5 juin dernier. Une quinzaine de militantes et militants écologistes qui ont été arrêtés tôt le matin, à l'aube, soupçonnés d'avoir participé à une action de désobéissance civile qui date du 10 décembre 2022. Mediapart raconte la scène. Lundi matin, à l'aube, environ 70 policiers ont débarqué à Verfeil-sur-Seille, un village du Tarn-et-Garonne. La moitié d'entre eux avaient le visage dissimulé, en parlant des policiers, avaient le visage dissimulé par une cagoule, décrit un témoin joint par Mediapart. Cet habitant, Rémi, s'est vu confier la fille d'une des personnes interpellées par la commissaire de police. Il y avait une vingtaine de policiers autour de la maison et à toutes les intersections des rues. Ils étaient partout dans le village, raconte-t-il. Remué par la situation, il attend devant la maison en cours de perquisition. Et là, un homme cagoulé, en t-shirt noir et treillis, lui a dit de sortir les mains de ses poches parce qu'il fallait qu'elles soient visibles. Donc même lui, qui n'avait rien à voir avec l'histoire, s'est fait mettre un coup de pression, hein, tout simplement, par les policiers. Après la perquisition de leur domicile, trois jeunes femmes ont été interpellées et conduites à Toulouse, où elles ont été placées en garde à vue. Une quatrième personne a été conduite au même endroit pour les mêmes faits. Selon nos informations, elles ont été interrogées dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs et dégradation en bande organisée, soupçonnées d'avoir participé à une action donc contre la cimenterie de Lamal, exploitée par le groupe Lafarge-Holcim à Bouc-Bélair dans les Bouches-du-Rhône, donc le 10 décembre dernier. Mediapart parle aussi de la découverte ces derniers mois par des militants écolos de plusieurs dispositifs de surveillance, de traceurs GPS, de caméras dissimulées qui semblaient donc déjà montrer que les opérations de police étaient en cours. Maître Pierre Hurier, qui est l'avocat du porte-parole du collectif Bassine Non-Bercy, expliquait pourtant, je cite, qu'on ne connaissait pas de procédure ouverte qui avait pu servir de support à des surveillances, une surveillance donc arbitraire, qui ne repose sur aucun cadre légal. La surveillance, on va justement en parler un peu plus en détail tout à l'heure. De leur côté, les Soulèvements de la Terre avaient publié un communiqué qui donne quelques explications, notamment sur le pourquoi de cette action fin 2022 contre Lafarge. Je vous en livre une partie. Tôt ce matin, les gendarmes sous la direction, les gendarmes et la sous-direction antiterroriste, donc on parle là quand même de terrorisme, ont mené une vague de perquisitions à travers toute la France. Un peu moins d'une quinzaine de personnes ont été perquisitionnées simultanément dans plus de 9 communes de France, puis placées en garde à vue. Sous ce régime de garde à vue, elle pourrait être détenue pendant 96 heures, alors que normalement la limite légale d'une garde à vue, c'est 24 heures, reconductible 24 heures. L'opération policière de ce matin, écrivent les Soulèvements de la Terre, s'inscrit de toute évidence dans l'escalade répressive que le gouvernement mène contre les mouvements sociaux et écologistes, avec une accélération notable ces derniers mois. Violence policière effroyable à Sainte-Soline, régime d'exception alimenté par le spectre de l'éco-terrorisme ou encore menace de dissolution des Soulèvements de la Terre. Par cette criminalisation, c'est bien l'association de malfaiteurs qu'ils constituent avec des industries mortifères que le gouvernement révèle, car nous le savons, c'est bien Lafarge-Holcim qui est coupable de destruction en bande organisée. Sur les 50 sites les plus polluants de France, 17 sont des cimenteries. Le béton représente 8% des émissions de CO2 mondiales. Quant au secteur du BTP, c'est 39% des émissions du CO2 au niveau mondial et 33% des émissions françaises tout de même. L'entreprise Lafarge semble cumuler les scandales environnementaux dans ses carrières et centrales à béton et cimenterie, parce qu'on se souvient aussi que c'est bien Lafarge-Holcim qui avait financé Daesh en Syrie avec l'accord tacite de la DGSE et de l'État, l'entreprise qui avait d'ailleurs été condamnée pour financement du terrorisme par la justice américaine en octobre 2022. Les soulèvements de la terre continuent en disant que, qu'assimiler aujourd'hui à du terrorisme l'usage légitime de la pince coupante, de la masse et de la clé à molette en vue de neutraliser des infrastructures est un inacceptable retournement. Les centrales à béton sont des armes d'artificialisation massive des terres agricoles et de destruction de la biodiversité, des bombes à retardement climatique. Il est donc plus que jamais légitime et nécessaire de désarmer ces cimenteries. Voilà donc pour le contexte de ces interpellations. On sait depuis qu'après 4 jours de garde à vue, ces 15 militantes et militants ont été relâchés le jeudi 8 juin, sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles et eux, pour le moment en tout cas. Maître Claire Dujardin, qui est l'avocate de 3 de ces personnes, dénonce le ciblage de militants écologistes par le gouvernement. Je cite « Si mes clients avaient été convoqués, ils seraient venus s'expliquer. Mais au lieu de ça, on a envoyé des dizaines de policiers armés et cagoulés pour les interpeller sur leur petit village et perquisitionner leur domicile. » Mais bon, l'intimidation, ça semble être devenu l'arme privilégiée de la police et du gouvernement en ce moment. Parce que bon, s'ils ont été libérés, c'est bien qu'on n'avait rien contre elles ni eux. Maître Dujardin dénonce aussi un gouvernement qui souhaite criminaliser les actions écologistes. Qu'il y ait une instruction et que l'on enquête sur les faits pénalement répréhensibles, c'est tout à fait normal, dit-elle. C'est le travail de la justice. Là où je suis critique, c'est la manière dont tout ça a été fait, les moyens disproportionnés utilisés dans un contexte dans lequel le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ne cache pas sa volonté de cibler ce qu'il appelle les écoterroristes. On emploie beaucoup ce terme, mais lui aussi, donc c'est de bonne guerre. L'avocate précise que les policiers leur ont posé des questions politiques pour connaître leurs opinions, leurs liens avec des organisations et même jusqu'à leur demander les auteurs qu'ils lisent. Donc un délit de littérature, hein, finalement. Les militantes et militants mis en cause et présumés innocents, faut le rappeler, sont donc toujours dans l'attente de la décision de la juge d'instruction afin de savoir s'ils vont être reconvoqués prochainement ou non.
Un bel exemple, comme tu dis, de coup de pression, sans fondement juridique aucun, en tout cas sans preuve, mais qui sert simplement à intimider, mettre sous cloche des militants et les neutraliser pendant un moment donné. En effet, malheureusement, je crois que dans cette émission, on va beaucoup parler de la répression, ouais, sous toutes ses formes, des violences policières, des formes d'intimidation, des expulsions et autres. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand on a un pouvoir de plus en plus isolé et antidémocratique, bah celui-ci, il règne par la politique de la carotte et du bâton, et surtout du bâton. La répression lui permet de tenter de mater toute forme de contestation sociale. C'est justement de ça qu'on va parler après cette première pause musicale. On va revenir sur les mobilisations sociales du mouvement des retraites et notamment la manifestation interprofessionnelle de mardi dernier, mais sous un angle peu reluisant, puisque au-delà de la réussite relative de cette journée, ça a quand même été un nouvel exemple et un nouveau débordement de violence policière qui s'est exercé sur ces manifestations. On en reparle tout de suite après cette première pause musicale dans cette émission Idées Noires, la bande son dans Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire. Et justement, on parlait du mouvement des retraites. On s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir. Peut-être une dernière fois pour cette saison sur Idées Noires, on va retrouver une nouvelle fois les vulves assassines. On les a beaucoup entendus à l'antenne, on les a beaucoup entendus dans les cortèges de nos manifestations, mais on va les écouter encore une fois nous chanter la retraite.
À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder,
la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
On se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on
Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. La retraite, on ne peut pas dire qu'on ne se soit pas battu pour la garder, comme nous le chantaient les vulves assassines actuellement. Mais malheureusement, c'est mal parti. C'est mal parti, d'autant plus pour la garder à 60 ans. On est plutôt parti pour devoir trimer et être exploité jusqu'à 64 ans. Malgré ces millions de personnes depuis le mois de janvier dans les rues, malgré les actions de blocage, malgré les actions de grève reconductible ici, là, malgré les casserolades, malgré les manifestations sauvages, malgré une opinion publique, sociale et syndicale profondément opposée à cette démolition sociale. On l'a compris, le gouvernement a décidé de passer en force. Le gouvernement n'est plus là pour défendre un quelconque simulacre de démocratie représentative et parlementaire. Il est là simplement pour être l'agent d'exécution des intérêts des classes dirigeantes et de la mondialisation libérale, et au nom de ces institutions, au nom de Bruxelles, au nom des actionnaires, eh ben, il a décidé d'augmenter la pression sur l'exploitation salariale, sur la main d'œuvre, sur le coût du travail. Et c'est pour ça que contre sans aucune justification économique, on en a déjà largement parlé, eh ben, on a décidé de nous voler. C'est le terme qui est juste, nous voler 2 ans de notre vie supplémentaire, 2 ans de cette retraite largement méritée, quasiment les 2 meilleures années, celle où on est le plus en forme, celle où on sort de sa vie d'active encore normalement dynamique et avec un rythme qui permet de faire plein de choses. Et ben, il va falloir reporter tous ces projets de 2 ans pour certainement partir à la retraite dans un état moins bon que celui qu'on pourrait avoir à 62 ans et encore plus à 60 ans. Et puis tout simplement, c'est se faire voler du salaire, puisqu'on ne le rappellera jamais assez. La retraite, c'est un salaire différé. C'est de l'argent qu'on a gagné au cours de notre vie d'actif, qui nous aide tous. C'est des cotisations sociales. Donc c'est une partie de notre salaire, des richesses que nous avons produites, que le patron doit nous verser, et qui est tout simplement différé pour nos vieux jours et pour notre repos. Et bien, si on nous verse ce salaire différé que 2 ans plus tard, c'est tout simplement qu'en même temps qu'on nous vole 2 ans de notre vie au repos, on nous vole 2 ans de cotisations sociales. 2 ans de salaire qu'on n'aura pas. Voilà, c'était tout ça les enjeux de ce mouvement. Je dis c'était parce que malheureusement, la journée de grève interprofessionnelle de la semaine dernière, de mardi dernier, a eu un goût amer de chant du cygne, ou en tout cas, comme quoi c'était la fin d'un round, en tout cas d'un premier acte. On ne dit pas que la lutte sociale est terminée pour autant, on ne dit pas qu'il ne va pas y avoir d'autres luttes à mener face au rouleau compresseur libéral, mais en tout cas sur le front des retraites, il semble que la mobilisation est peut-être en partie tiré son chapeau la semaine dernière dans la rue, lors d'une mobilisation qui a été tout à fait honorable, notamment à Lyon, avec quasiment 27 000 personnes qui sont encore une fois descendues dans la rue, qui ont été l'expression d'un mouvement long, déterminé, mais qui a été méprisé par le gouvernement, qui a refusé d'entendre quoi que ce soit. Si on peut se féliciter des formes qu'ont pris ce mouvement, des rencontres qui ont été faites, des solidarités qui ont été menées, du regain d'intérêt pour l'outil syndical et du taux de syndicalisation en hausse, on peut par contre, au regard de cette manifestation de la semaine dernière, en tout cas à Lyon, mais dans de nombreuses autres villes en France aussi, notamment à Paris, on peut que déplorer par contre, tout au long de la fin du mouvement, une montée systématique de la violence par les forces répressives de l'État, de la violence des forces de l'ordre, qui est à mettre en parallèle avec ce qu'on a décrit tout à l'heure sur la répression des mouvements contestataires et les formes d'intimidation. En fait, on assiste aujourd'hui à une utilisation de la violence policière pour casser les mouvements sociaux et qui pourtant, malgré son ampleur, a montré son inutilité à de nombreuses reprises. Mais qui est l'expression d'un gouvernement dont l'unique réponse face à la rue, face à la contestation sociale, c'est celle justement de la violence. Alors on pourra que saluer le communiqué qui a été fait par la CNT, la CNTSO et le STJV pour dénoncer justement ces violences policières lors de la manifestation du 6 juin dernier, où le cortège syndical a été attaqué par les forces de l'ordre et les forces répressives à plusieurs reprises. reprises. Hein, ça a été d'une part, comme il le dénonce dans ce communiqué public, au croisement de Saxe et au croisement Saxe-Gambetta, où une première attaque a été menée frontalement contre le service d'ordre intersyndical, hein, dont faisait partie l'ensemble des organisations syndicales. Et puis, une nouvelle fois, à l'arrivée de la manifestation, place Antonin-Poncet, alors que ce service d'ordre intersyndical s'était déployé pour protéger les manifestants, alors qu'il était clairement identifiable par ses chasubles siglés des différentes organisations syndicales de l'intersyndicale. Malgré ça, la préfecture, comme ça a été d'ailleurs confirmé par de nombreux journalistes, a donné l'ordre de matraquer, de donner des coups de bouclier, de gazer à bout portant, jusqu'à même faire chuter violemment plusieurs membres du service d'ordre et des manifestants qui étaient présents. Alors il y a de très nombreuses vidéos hein, qui témoignent de cette violence et qui ne laissent pas de place au doute sur son usage délibéré par les forces de l'ordre, qui ont été diffusées dans la foulée sur les réseaux sociaux et sur Internet. Le résultat des courses, c'est qu'il y a une quinzaine de blessés qui ont été à déplorer au sein du service d'ordre de l'intersyndicale. On peut bien sûr que leur apporter notre soutien, tout comme d'ailleurs plus largement à toutes les victimes des violences policières. Mais on n'est pas dupes pour autant. On sait que, par exemple, la présence d'une association de commerçants dans le PC de sécurité de la préfecture lors de la manifestation est une des raisons de la violence contre le service d'ordre de la manifestation et de l'ensemble des manifestants. Le gouvernement, en l'occurrence par son représentant lors de la manifestation, le préfet, voulait tout simplement montrer son soutien aux associations de patrons en procédant à des arrestations à la fois aléatoires et à la fois violentes et à montrer qu'il était capable après plusieurs mois de manifestation, de rétablir l'ordre et de maintenir l'ordre et le petit commerce dans les rues de Lyon. En tout cas, on terminera en disant que ces violences policières ainsi que le mépris du gouvernement ne doivent pas nous empêcher de continuer contre les réformes antisociales et réactionnaires de celui-ci. En premier lieu, celles des retraites, mais toutes celles qui s'annoncent et qui vont arriver derrière. Et puis plus largement, nous, en tant que militants anarchistes, on sait que ça ne nous empêchera pas de nous battre pour poser les bases d'une société sociale, plus égalitaire et plus libertaire. Parce qu'on sait que c'est bien par l'action collective, par l'action sociale, par la grève, par la manifestation, qu'on est capable de construire un rapport de force avec l'État et le capital, malgré sa violence légitime et malgré cette violence qui tend à diviser, à faire peur aux gens qui se mobilisent. Voilà, c'est ce qu'on voulait mettre en lumière par rapport à cette mobilisation interprofessionnelle de la semaine dernière, mardi 6 juin, 27 000 personnes encore dans les rues de Lyon, mais cette fois-ci, contrairement à ce que parfois disent les médias et le pouvoir, la violence, elle n'était pas du côté des manifestants, elle n'était pas du côté des soi-disant casseurs. Les véritables casseurs, c'est ceux qui cassent le système des retraites, et la violence, elle était du côté de leurs chiens de garde qui matraquent et gaz lacrymogène à la main ont exercé un certain nombre de violences contre le cortège intersyndical et son service d'ordre. Voilà, une étape de plus, un fait de plus dans la violence policière. Et puis malheureusement, violences, arrestations sont le lot de ce mois de juin, puisqu'à Paris aussi, à l'occasion de commémorations dont on vous a déjà fait part, de la mort de Clément Méric, militant antifasciste, là aussi la répression s'est abattue sur des militants.
Oui, on va continuer hein, avec l'intimidation étatique, un peu à la manière de ce qui a été fait pour les militants écologistes dont on vous parlait tout à l'heure. Ici, tu viens de le dire, il s'agit de la répression après le week-end d'hommage qui a eu lieu pour les 10 ans de la mort du militant antifasciste Clément Méric. J'en profite pour faire une petite parenthèse hein, pour vous dire que le journal de l'UCL, Alternative Libertaire, consacre justement la une de son numéro de ce mois-ci à Clément. Il y a tout un dossier sur ses engagements, son combat antifa, sur le dernier 1er mai aussi, qui a été plus antifasciste que jamais au Havre, où le FN a tenté d'organiser un événement. Vous pouvez retrouver ce journal dans quelques kiosques, mais pour être sûr de le trouver, vous pouvez venir aussi à La Plume Noire, on le rappelle, hein, 8 rue Diderot. Pardon. Fermons cette parenthèse, donc, pour revenir au sujet de la répression. Mardi 6 juin, trois camarades italiennes et italiens venus à Paris pour le week-end en hommage à Clément Méric ont été interpellés, menottés dans une pharmacie à Aubervilliers. Tous les trois se sont retrouvés ensuite dans différents centres de rétention administrative à Vincennes et Ménilamello. Et ce, alors qu'il et elle avaient des billets pour entrer en Italie le lendemain et qu'il et elle n'avaient pourtant commis aucun acte pouvant justifier une telle procédure. On a appris depuis que leur audience devant le juge des libertés et de détention, jeudi 8 juin, est venue contrarier la décision du ministère de l'Intérieur et permettre donc leur sortie du CRA. Le juge a en effet estimé que la mesure, qui ne correspond pas à une mesure d'éloignement classique et qui reste limitée dans le temps, visait, je cite, à les évincer de la tenue d'une manifestation et qu'il y avait eu là un détournement des conditions ouvrant au placement en rétention administrative. Donc, encore une preuve d'arrestation abusive. Cette fois, c'est même un juge qui le dit. Tout cela s'inscrit dans la logique sécuritaire que l'on connaît depuis le début de la mobilisation, t'en parlais, hein, contre la réforme des retraites, et qui remet toujours plus en cause le droit de manifester en France. Selon Mediapart, tous les trois font ainsi l'objet d'une interdiction administrative du territoire. La mesure qui permet d'empêcher un étranger d'entrer en France lorsque sa présence constitue un danger grave comme des activités terroristes, on en revient toujours au terrorisme, hein, dès qu'il faut justifier de répression, peut concerner cette mesure tous les étrangers, y compris même des Européens, donc dans ce cas-là des Italiens et Italiennes. Maître Camille Vanier, qui est avocate particulièrement engagée sur ce type de dossier, explique que, je cite, le ministre de l'Intérieur tente sans avoir besoin de se justifier. Et on voit qu'il passe, il voit ensuite ce qui passe et ce qui ne passe pas. On dépose un recours, on voit si ça marche, mais de toute façon, comme les temps judiciaires sont très longs, on a réussi l'objectif qui était d'empêcher des manifestants de manifester. On le voit donc très bien dans cet exemple, il fait condamner des gens dans la précipitation. Une fois que les avocats ont fait leur boulot, on se rend compte que ça ne reposait sur rien, mais le but recherché par l'État est atteint. On empêche les gens de manifester et on leur fait passer l'envie d'y revenir. On les prive donc de leur liberté sans le moindre socle légal. On peut lire aussi sur Mediapart que depuis quelques mois, le ministère de l'Intérieur multiplie les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, ainsi que les interdictions administratives du territoire, comme dans ce cas-là, pour les Italiens, à l'égard de militantes et militants européens venus manifester en France au prétexte qu'ils représentent une menace réelle pour le pays. Et chaque fois, le procédé est le même. Ces personnes sont interpellées avant, pendant ou après une manifestation organisée sur le sol français, placées dans des centres de rétention administrative, puis expulsées lorsque le juge des libertés et de la détention ou le tribunal administratif ne décide pas de leur libération. Les militantes et militants ont alors interdiction de revenir en France, même lorsqu'ils ont des attaches ou des liens familiaux. Pour les manifestants concernés comme pour les acteurs associatifs, ces pratiques du ministère s'apparentent à une nouvelle façon de mater les mobilisations dans le cadre de luttes politiques, sociales ou écologistes à l'heure où l'ultra-gauche, l'écoterrorisme et le terrorisme intellectuel d'extrême-gauche, hein, pour reprendre les termes du sinistre Gérald Darmanin, sont largement pointés du doigt. Et puisqu'on parle de centres de rétention administrative, notamment on a évoqué là celui de Vincennes.
Alors juste une petite parenthèse, moi ce qui me surprend dans cette affaire, alors en toute naïveté, je ne pensais pas que, entre guillemets, des citoyens européens pouvaient se retrouver en centre de rétention administratif. Je croyais que le placement en centre de rétention administratif était réservé aux extra-européens. Ses camarades italiens, visiblement, nous... Alors, soit c'est un nouvel abus de pouvoir et abus de justice, soit ils nous prouvent qu'au contraire, en fait, les centres de rétention administrative, ils ne sont pas simplement réservés aux extra-européens, mais ils peuvent aussi s'abattre aux citoyens de l'Union européenne.
Oui, bah là, les mesures, effectivement, semblent s'appliquer même à des citoyens européens. Donc oui, pour en revenir du coup sur le centre de rétention administrative de Vincennes, je voulais revenir sur un événement tragique dont on vous avait parlé il y a 2 semaines, un retenu qui avait été tabassé à mort, on ne peut pas le dire autrement, par les gardiens du CRA, de ce CRA donc de Vincennes. Il y a un court article qui a été publié sur le blog Abat les CRA le 9 juin dernier qui raconte la suite de cette mort tragique, dont je vais vous lire un extrait. Suite à la mort de M, tabassé par un flic vendredi 26 mai au centre de rétention administrative de Vincennes, plusieurs affrontements ont eu lieu entre les keufs et les retenus qui ont décidé de lutter collectivement pour que la mort de M ne passe pas sous silence. Une forte répression a suivi pour les faire taire et casser la dynamique de révolte. Après ces tabassages, des retenus ont tenté de déposer plainte pour dénoncer ces violences policières. Mais tout est fait pour les en empêcher. Même quand un prisonnier meurt, ses camarades n'ont le droit que de fermer leur gueule. Plusieurs retenus n'ont ainsi pas eu le droit, ne serait-ce que d'aller voir le médecin après avoir été tabassé. L'un d'eux témoigne. Ça fait des jours que je demande un certificat médical et que je l'ai toujours et que j'ai toujours pas pu le faire. Le premier jour, les flics n'ont pas voulu que j'aille à l'infirmerie et après, il y avait trop de monde, explique l'un d'eux. Or, plus le temps passe, plus les traces des coups diminuent et deviennent invisibles. Voilà, donc on le rappelle, hein, les CRA ne sont ni plus ni moins que des prisons dans lesquelles on enferme des exilés et où visiblement on les prive de tous leurs droits, même les plus basiques, comme se faire soigner.
Et puis sur le front de la répression, il n'y a pas que les militants antifascistes, il n'y a pas que les militants syndicaux et sociaux qui en sont victimes. Les mal logés et squatteurs aussi, malheureusement, en ce printemps à la veille de l'été, subissent aussi, sont soumis à la violence et aux vagues d'expulsion.
Oui, malheureusement, on s'était réjoui il y a quelques semaines de l'ouverture d'un nouveau squat. On en avait parlé ici même avec deux militantes du comité de soutien aux migrantes migrants de la Croix-Rousse. On se désole aujourd'hui de la fermeture de plusieurs squats à Lyon. La maison Sans Souci, tout d'abord, squat qui héberge actuellement des demandeuses et demandeurs d'asile, est menacée d'être fermée et donc ses habitants et habitantes d'être expulsés et jetés à la rue sans possibilité d'être relogés. Ces personnes, ainsi que leur soutien, ont publié un communiqué le 10 juin qui explique ce qui les attend. La maison Sans Souci est occupée depuis octobre 2020. Les élus de la mairie du 8e, propriétaire du bâtiment, ne connaissent pas l'existence de ce bâtiment fermé depuis 10 ans et pour lequel il n'existait pourtant aucun projet. Pourtant, une cinquantaine de personnes, dont des femmes enceintes et des enfants, y vivent. Le lieu est entièrement géré par les occupantes et occupants. Ils ont aménagé les lieux, ont fait toutes les réparations nécessaires. On y trouve même un poulailler, un jardin, un compost partagé par les habitantes du quartier et un atelier aussi de réparation de vélos. Les habitants et habitantes organisent des après-midi portes ouvertes auxquelles sont conviés les voisins et voisines. Il y a même aussi des cours et des ateliers de formation qui s'y tiennent. La plupart des habitants sont en demande d'asile et auraient dû se voir proposer un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui n'a pas été le cas. Actuellement, les dispositifs d'hébergement sont complètement saturés. Plusieurs squats ont même été fermés et les familles hébergées sont hébergées dans des écoles vont se retrouver sans solution en juin. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont menacées de remise à la rue et le communiqué précise aussi que 10 000 personnes sont en attente actuellement d'hébergement d'urgence à Lyon. Dans ce contexte, on ne comprend pas la volonté de la mairie et des autorités à vouloir expulser la maison Sans Souci. Les habitants et habitantes y ont construit un havre de paix pour eux et leurs familles. Il n'y a aucun projet arrêté pour ce site, ce qui laisse normalement le temps d'occuper le bâtiment. Vendredi 9 juin, les habitantes et habitants se sont rassemblés devant la mairie du 8e pour demander une rencontre avec le maire, après plusieurs demandes restées sans suite. Mais le maire, présent sur les lieux, a refusé de descendre. Il a par contre pas hésité à faire appel à la police pour dégager violemment la trentaine de manifestants qui étaient sur les lieux. Un habitant a été conduit en garde à vue après avoir été gazé et matraqué par la police municipale alors qu'il n'opposait aucune résistance et des poursuites sont engagées contre lui. C'est la deuxième fois que les habitants sont confrontés à la violence policière puisque la semaine dernière, une trentaine de policiers a fait irruption dans ce même squat pour faire soi-disant un recensement tout en profitant pour saccager tout sur leur passage. Au début de l'occupation, Sandrine Runel, adjointe au maire, avait déclaré au Progrès le 10 mars 2021 que la mairie prenait le dialogue et ne procéderait pas à l'évacuation sans solution de relogement. Et elle ajoutait « Quoi qu'il arrive, nous ne demandons pas le concours des forces de l'ordre ». C'est effectivement tout le contraire qui s'est déroulé pour l'évacuation de ce squat. L'expulsion est imminente, elle peut intervenir à tout moment. C'est pourquoi les habitantes et leur soutien sollicitent l'ensemble des organisations démocratiques, les élus, pour interpeller la mairie de Lyon, la métropole, la préfecture, afin de s'opposer à cette expulsion et leur demander d'ouvrir le dialogue avec les habitantes et les habitants. Voilà, donc si vous voulez soutenir la maison Sans Souci, vous pouvez écrire à plusieurs élus, notamment Olivier Berzane, maire du 8e, Grégory Doucet, le maire de Lyon, ou Madame Sandrine Runel, qui est adjointe municipale à la solidarité. Pour leur écrire, c'est très simple, c'est prénom.nom@mairie-lyon.fr. Par exemple, pour Sandrine Runel, c'est sandrine.runel@mairie-lyon.fr.
sachant que l'avenir de ce squat, de cette maison sans souci, est plus que compromis et plus que précaire, puisque ce lundi matin, avant-hier, hein, on était donc lundi 12 juin, tôt le matin, bah, les flics ont tenté de procéder à une première expulsion du squat, que les habitants ont résisté un long moment, mais qu'en fin de matinée, il y a eu quand même deux personnes qui ont été embarquées. Et ce qui est de triste intervention, c'est qu'il y avait même la police des frontières qui était sur place, donc prêt à embarquer directement dans les centres de rétention administrative ceux que la police nationale sortirait de l'occupation. Donc un sacré coup de pression qui a été mis sur ce squat, qui a poussé de nombreuses personnes qui sont logées déjà à le quitter, et qui a très bien fait comprendre le message que l'évacuation était en cours et qu'on peut considérer que ce qui s'est passé ce lundi matin, c'est un premier acte de cette évacuation, avec, je vous le dis, déjà deux personnes qui ont été embarquées au cours de celle-ci. Voilà, donc en effet, plus que jamais, besoin, comme tu le dis, de soutien pour ce squat, pour cette villa sans souci.
Pour ce squat et aussi pour un autre, c'est le squat Dur à Cuire à Caluire. Ici, c'est un peu différent puisque le squat a déjà été fermé, mais on retrouve encore les mêmes méthodes et le même parcours du combattant pour les exilés, qui se retrouvent toujours menacés par la police pour avoir utilisé un bâtiment vide dans le simple but légitime d'avoir un toit sur la tête. Et ici encore, l'absence de solution de relogement. Après 3 ans et demi d'occupation, pourtant sans heurts, le squat Dur à Cuire vient d'être fermé à Caluire le 8 juin. Comme prévu par la convention d'occupation, donc, mais les habitants et leur soutien ont été choqués par le déploiement d'un dispositif, je cite, de police massif, alors que la plupart des gens étaient pourtant déjà partis. Surtout, les habitants et le collectif de soutien ont scrupuleusement respecté le contrat signé avec le bailleur, soutenu par la métropole, métropole qui a manqué à son engagement aussi en demandant au préalable l'intervention des forces publiques, alors qu'elle s'était engagée à ne pas le faire. Après 3 ans et demi d'occupation, la préfecture et dans une moindre mesure la métropole ont l'obligation de mettre toutes ces personnes à l'abri, mais n'ont prévu aucune solution. Et la soixantaine d'occupants que comptait le squat, sur la soixantaine d'occupants, donc il y a seulement 3 familles avec des enfants en bas âge qui ont finalement été relogés de manière temporaire et précaire dans un hôtel de manière provisoire, voilà, et en demandant une solution pas du tout pérenne pour laquelle ils n'auront pas de suite. Les demandeurs d'asile en cours de procédure n'ont pas non plus bénéficié d'offres d'hébergement de la préfecture. C'est donc au total une 50aine de personnes qui viennent d'être mises à la rue. Une 15aine ont installé un campement improvisé dans le square férié à la Croix-Rousse en attendant d'autres solutions. Et ils ont besoin de soutien sur le plan matériel et financier. Parmi les besoins immédiats, comme toujours, hein, des matelas de camping, des couvertures, des réchauds, des casseroles, des toiles imperméables, des produits d'hygiène aussi. Voilà. Donc, ce communiqué a été publié pour le squat Dur à Cuire sur Rébellion. Vous pouvez aussi retrouver une adresse mail pour entrer en contact avec les soutiens du squat et un lien si vous souhaitez faire un don.
Voilà, sur le front des mal logés, sur ceux qui luttent qu'on se réapproprie ce qui doit être un droit essentiel, celui d'avoir un toit sur la tête, par-delà la sacro-sainte propriété privée, et qui tentent d'y développer des espaces collectifs d'entraide, notamment pour ceux qui subissent différentes formes d'oppression, être sans logement, mais aussi sans papier. Là aussi, victimes donc de la justice et de la répression, de la justice bourgeoise. On va faire une seconde pause musicale sur cette antenne de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Et on va retrouver les orgues de Barbac qui nous chantent Touche pas à mon école. Et c'est une excellente introduction au sujet qu'on va faire après sur les différentes mobilisations qui ont agité l'éducation, notamment au plan local, depuis le début de cette semaine. Les orgues de Barbac sur ce 102.2 dans cette émission Idées Noires.
Tant que la peur change de camp.
Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poux bien épicés, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs.
Mais si continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
petite sœur, il est quelle heure, dis-le-moi vite.
Il est midi, allume le feu sous la marmite. J'ai cuisiné un fricassé de bras cassés, doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats. Digérer des asticots, des ragluants, des gros gugus, un peu crâne, grouillant, bouillant, enfin bref, dégoûtant.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Oui, s'il continue à toucher à notre école, le président à la casserole.
Solo.
Quelle heure est-il? J'ai le ventre qui m'appelle.
Il est midi, j'ai fait chauffer les gamelles. On va goûter un velouté de vieux ministres avinés, relevés à l'Elysée, et de quelques lois à la noix, un pot-au-feu de députés, un patron qui pue les pieds et le fromage. Enfin bref, bon courage.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Oui, s'il continue à toucher à notre école, le président à la casserole. Encore un solo.
Qui grimace,
qui gargouille,
qui crépasse, qui fait la grève et qui se
trompe, qui est estomac, qui crépasse, une école qui tombe à ruine,
les entrailles qui me tiraillent,
mon pays qui déraille,
mais des marmots qu'on les
croit, des larvons qui ont les jetons,
des gamins dans le pétrin,
un mouflet très inquiet,
et c'est la fin des haricots,
et c'est la fin des haricots,
c'est la fin des haricots,
j'ai des poules, j'ai des fleurs,
j'ai du sel de gamin,
c'est la fin des haricots,
je les gros sur ma pote, achète un poster travail,
c'est la fin des haricots,
c'est la fin.
Touche pas à mon école, nous chante les orgues de Barbac sur ce 102.2. Vous êtes encore pour une dizaine de minutes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et bah, ça tombait à propos, cette chanson des orgues de Barbac, parce que en cette fin d'année, bah, y a pas mal de mobilisation autour de l'école, dans les écoles, comme autour de celle-ci. Et on avait envie de vous faire part de trois mobilisations qui ont eu lieu ces jours-ci, en ce début de semaine, et d'y apporter d'ailleurs toute notre solidarité avec ceux et celles qui luttent pour défendre un service public d'éducation digne de ce nom, égalitaire et ouvert à toutes et tous, sans discrimination et surtout qui puisse permettre l'accès à l'éducation et la culture au plus grand nombre dans de bonnes conditions, par-delà les difficultés sociales. Première mobilisation dont on voulait faire écho, c'est celle qui a eu lieu hier, mardi 13 juin. Mardi 13 juin, c'était une journée de grève nationale des AED, des AESH. Alors, pour ceux qui ne sont pas férus du monde de l'éducation nationale, les AED, c'est les agents d'éducation, c'est ce qu'on appelait traditionnellement, pour les anciens comme moi, les pions, les surveillants, etc., ceux qui s'occupent de la vie scolaire, on va dire, de façon plus générale. Et les AESH, alors je ne me rappelle plus exactement à quoi renvoie l'anagramme, peut-être que Rémi, dans ta boule de cristal, tu pourras nous le dire, mais je crois que c'est du type des agents éducatifs de soutien au handicap. Et ce sont des personnels qui sont dédiés à favoriser l'intégration des élèves handicapés dans les établissements scolaires.
Oui, c'est accompagnant des élèves en situation de handicap.
Ah, j'étais pas loin. Accompagnant des élèves en situation de handicap. En tout cas, ces AESH, comme ces AED, ils étaient en grève hier. Ils étaient appelés à être en grève parce que, tout simplement, dans le cadre de la conférence nationale du handicap, eh ben, les annonces du gouvernement qui ont été faites sur les AESH et plus généralement sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école sont loin d'être satisfaisantes. Alors, un petit rappel, on pourrait rappeler que cette histoire d'AESH, elle remonte en 2014, puisqu'il y avait un décret à ce moment-là qui a instauré un cadre relatif aux conditions d'exercice des AESH. Mais moins de 10 ans plus tard, on se rend compte que ce décret qui est devenu obsolète, eh ben, il n'est pas du tout dépoussiéré, bien au contraire. Hein, le nombre de AESH aujourd'hui est en constante augmentation, sans pour autant parvenir à recruter à hauteur des besoins, et que ils sont toujours dans une situation de précarité exécrable, puisque le dernier décret en date devait arriver sous peu et rendre possible l'accès à un CDI pour les AESH qui ont au moins 3 ans d'ancienneté, mais ceux-ci l'attendent toujours. C'est-à-dire que parmi ceux qui sont là déjà depuis 3 ans, on sait que dans le privé, on n'a pas le droit de renouveler deux CDD, il me semble, dit le Code du travail et dit la loi. Et ben, dans l'éducation nationale, il n'y a pas de souci. Leur contrat peut être renouvelé renouvelés chaque année. Et ceux qui sont là depuis 3 ans, ils sont toujours en attente d'un décret qui leur permettrait d'accéder à un CDI, dans l'éducation nationale. Alors, du côté des surveillants dans les AED, les choses ont un petit peu bougé, puisque leur mobilisation, elles ont permis, eux, qu'ils puissent accéder à un CDI après 6 ans d'ancienneté, par contre. Après 6 ans de précarité, 6 ans de renouvellement de leur contrat, depuis septembre 2022, ils ont enfin droit à pouvoir être titularisés. Enfin, tout ça, ça nous montre bien que le gouvernement, il n'est pas prêt à titulariser toutes ces personnes qui sont en contrat précaire dans l'éducation nationale et qui pourtant sont indispensables. Et bien au contraire, pour arrêter d'être mis devant ses responsabilités, il a décidé de rabattre les cartes en annonçant la création future d'un nouveau statut qui serait celui de l'accompagnement de réussite scolaire ou un personnel hybride qui serait le AR, qui serait à mi-chemin entre l'AED, le surveillant, et l'AESH, l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, et puis sans se poser la question de savoir s'il a les compétences pour, et en niant totalement la spécificité de chacun de ces métiers. Du coup, c'est pour ça que les organisations syndicales de l'éducation nationale, elles étaient en colère, que ces personnels précaires l'étaient particulièrement, et que hier, ils étaient en grève, et qu'ils se sont rassemblés, par exemple, pour défendre et améliorer les métiers d'AED et d'AESH devant le rectorat de Lyon hier à 14h pour réclamer la création d'un véritable corps de fonctionnaires pour les AED et les AESH qui soit accompagné d'une vraie formation initiale et continue bien évidemment sur leur temps de travail, qui soit réclamé aussi une revalorisation de leur salaire avec puisqu'aujourd'hui les AESH pour des temps pleins de 24 heures les AESH aujourd'hui peuvent travailler plus de 40 heures alors qu'ils réclament un temps plein de 24 heures en présence des élèves avec le temps de préparation qui est à côté et bien évidemment des augmentations de salaire qui vont avec une grille qui soit au minimum acceptable pour permettre des salaires décents pour ces personnels-là avec bien sûr des recrutements à hauteur des besoins des élèves. C'est pour ça que hier, donc à midi, à 12h, devant le rectorat, il y avait cette manifestation des AED, des AESH pour défendre leurs conditions. Et puis aujourd'hui, à 14h30 devant le rectorat, il y avait un nouveau rassemblement, cette fois-ci qui était celui des lycées d'éducation prioritaire. En l'occurrence, c'était les enseignants de la cité scolaire Samba-Seguin de Vénissieux, du lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin, du lycée Jacques Brel de Vénissieux, Frédéric Faïs de Villeurbanne et Camus Sermenaz à Rieux-la-Pape qui se sont mobilisés pour une raison très simple, c'est que c'est des établissements qui ont en commun de ne pas bénéficier des moyens dits de l'éducation prioritaire. Pourtant, ils sont tous sur des secteurs d'éducation prioritaire ou d'éducation prioritaire plus et ils accueillent tous des élèves qui sont issus de ce qu'on appelle les collèges REP ou les collèges REP plus, c'est-à-dire qui rencontrent des difficultés sociales et scolaires spécifiques et dont l'égalité des chances réclamerait que ces difficultés soient prises en compte par des moyens supplémentaires. Malheureusement, l'éducation nationale a prévu de donner des moyens supplémentaires au collège, mais pas au lycée. Et donc, quand on est dans une zone défavorisée, qu'on est dans un collège bénéficiant du label REP ou REP+, malheureusement, quand on passe au lycée, on perd toutes les aides qui vont avec. Et ces établissements-là, eux, ils n'en bénéficient pas. Et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés aujourd'hui devant le rectorat. Et puis, dernière information sur le front de l'éducation. Autour de l'école cette fois-ci, tu nous parlais des mal logés, tu nous parlais des sans-papiers, sans toit, dans les squats tout à l'heure Rémi, il y a encore des enfants sans toit à l'école Jean Masset, dans le 8e arrondissement de Lyon, et depuis le début de cette semaine, depuis ce lundi, l'école est une nouvelle fois occupée par les personnels afin de mettre une famille à l'abri, une nouvelle solidarité, occupation de l'école Jean Masset depuis ce lundi 12 juin pour soutenir une famille. Et on termine en rappelant que cette situation, malheureusement, c'est pas la seule, puisqu'il y a actuellement 305 enfants qui dorment à la rue dans le Grand Lyon, ce qui est tout bonnement scandaleux parce que l'hébergement est un droit inconditionnel. Voilà, sur le front de l'éducation, les luttes qui peuvent être menées, notamment par les collectifs du comité, du collectif Jamais sans toi. On termine peut-être cette émission Idée Noire avec un petit point sur le contrôle social.
Oui, ben on en avait déjà parlé il y a quelques semaines de la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, dans le cadre de la loi Jeux Olympiques 2024. On va refaire un petit point Orwell, 1984, tout ça. Et on va parler de surveillance à travers deux lois qui ont été récemment votées par le Sénat. La première, c'est une loi pour la reconnaissance faciale dans l'espace public, votée ce lundi. Si cette proposition de loi a peu de chances de passer, le simple fait qu'elle soit proposée a de quoi inquiéter. C'est ce qu'explique la Quadrature du Net. Si vous ne les connaissez pas, la Quadrature se présente comme un groupe citoyen de défense des libertés civiles à l'ère du numérique. Et selon ce collectif, si cette énième attaque sécuritaire n'est clairement pas rassurante, il est très peu probable qu'elle passe à l'Assemblée nationale. En fait, pour rappel, il s'agit d'une proposition de loi, c'est-à-dire un texte à l'initiative des parlementaires et non du gouvernement, ici des sénateurs de droite, qui veulent faire repasser des dispositions proposées au moment de la loi des JO 2024, donc les mêmes qui concernaient la vidéosurveillance algorithmique. Ce projet est tellement hors sol et hors sujet que, chose rare, la Quadrature, souvent interrogée par les députés sur ce genre de questions, a même refusé de participer aux auditions, puisque le texte ne pouvait même pas être amélioré. La CNIL, qui est, elle, l'autorité... Je suis vraiment fan des acronymes ce soir, hein. J'en ai beaucoup. La CNIL, qui est l'autorité indépendante censée protéger nos libertés, a elle-même critiqué la forme et le fond de ce texte. L'exécutif a aussi désapprouvé cette initiative portée par deux sénateurs, LR et centristes, qui sont connus pour être des fans inconditionnels de la reconnaissance faciale, puisqu'ils avaient déjà essayé de faire passer ce genre de texte il y a un an dans un autre projet de loi. Et là, alors que le décret d'application de la loi olympique sur la VSA n'est même pas encore publié, le Sénat s'empresse de promouvoir la reconnaissance faciale qui avait pourtant été affichée comme la ligne rouge à ne pas dépasser lors des débats sur le projet de loi des JO 2024. Ouais. Même si elle est passée au Sénat, donc ce projet de loi a peu de chances de survivre à l'Assemblée, mais le symbole est là et non sans danger. On habitue les esprits à des propositions toujours plus extrêmes et le seuil de l'inacceptable recule, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, hein, qui s'ouvre toujours plus vers la droite, dans un contexte où le Sénat a aussi récemment donné son feu vert pour l'activation à distance des caméras ou des micros de téléphone. C'est la deuxième loi dont je voulais vous parler. Alors ici, rien à voir avec la surveillance dans l'espace public, c'est carrément dans votre espace privé qu'on vous surveille. Et là, c'est à l'initiative du ministre de la Justice, donc directement une volonté du gouvernement. Voilà, donc il y a bien l'Observatoire des libertés du numérique qui a dénoncé une surenchère sécuritaire, mais on sait très bien que si le gouvernement veut faire passer des militants écolos pour des terroristes, il n'aura aucun mal à le faire.
Voilà, on vous tiendra bien évidemment au courant de l'avancée de ces lois répressives et de contrôle social. En tout cas, on voulait terminer cette émission par cette relative bonne nouvelle, en tout cas, de ce recul, en tout cas, sur ce projet-là. Mais surveillons que ce qui a été foutu à la porte ne repasse pas par la fenêtre dans les mois qui arrivent. C'était l'émission Idées Noires. On se donne rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain à 20h sur ce 102.2 pour une nouvelle édition d'Idées Noires. En attendant, moi, je vous retrouve juste après notre générique pour l'émission La Bande Son de nos révoltes. Salut Rémi.
Salut David.
Et à mercredi prochain, 20h sur Radio Canu, pour un nouvel acte d'Idées Noires.